La personne qui s'est assise en face de moi est arrivée dans le studio avec une énergie que je qualifierais de très douce. Pourtant, elle est habillée dans un ensemble rouge primaire, vif, de la tête aux pieds, 100% coton. Elle a les cheveux bruns, une queue de cheval, les yeux bleus. Elle est en train de sourire, un peu étonnée par ce portrait que je suis en train de faire d'elle. Je suis Lauriane Meulière et je reçois Cathy Closier, fondatrice des restaurants Season. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast My Blend. Je viens de te décrire, c'est pas forcément un exercice facile d'être regardé, observé et puis commenté. Comment tu te décrirais toi avec tes mots? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes dans la glace?
Moi je m'appelle Cathy, je suis restauratrice. Généralement c'est ce qu'on me dit. J'appréhende toujours le moment où on veut creuser ce que je suis. Restauratrice, c'est-à-dire. J'ai jamais trouvé les bons mots pour décrire ma fonction. Je suis gérante de restaurant, j'ai arrêté de le dire parce que on me demande toujours pour qui je travaille. Souvent, on ne perçoit pas au début que je suis propriétaire de ces restaurants. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal à devoir dire non, c'est mes restaurants. Enfin, c'est toujours un moment qui est compliqué pour moi. Je me suis rendu compte d'une chose avec l'expérience, c'est que la manière dont on me perçoit est pas du tout la manière dont je me vois. C'est toujours très très intéressant d'entendre la perception que les gens peuvent avoir de moi. Par exemple, tu me dis que tu trouves que je suis en forme et moi, je sais qu'en me regardant dans le miroir, je me trouve très fatiguée. Je sais aussi qu'on peut percevoir de moi énormément de confiance que je n'ai pas forcément. En revanche, avec le métier que je fais, j'ai l'habitude de le cacher.
Comment tu décrirais ton rapport à tes émotions aujourd'hui?
Je m'intéresse aux émotions de manière beaucoup plus importante depuis environ 3 ans, puisque j'ai découvert que j'avais apparemment ce qu'on appelle une dérégulation émotionnelle et que j'étais suréfficiente, ce qui m'a permis de comprendre énormément de choses sur mes réactions. J'ai vraiment fait un travail dessus avec des gens spécialisés. Je me rends compte que les émotions ont des réactions physiques. Suivant les différentes émotions, on a vraiment des réactions physiques bien précises. Donc moi, ça m'aide à les gérer en tous les cas, maintenant, de pouvoir les reconnaître en amont. Et puis surtout, ça permet de s'accepter. Moi, c'est vrai que j'étais dans l'incompréhension pendant quand même très très longtemps de qui j'étais et mes réactions. J'avais aussi l'impression que tout le monde réagissait comme moi. Et c'est pour ça que je comprenais pas des fois les différences de réaction. Et maintenant, je me rends compte que je réagis différemment. Donc c'est pour ça que les autres ne pouvaient pas me comprendre. Pour moi, ça a été un bouleversement. Maintenant, je comprends que c'est lié à des émotions.
Cette dérégulation émotionnelle, cette suréfficience aussi, c'est des choses qui masquent une réalité. Parce que quand je te demandais de te décrire, justement, tu disais, souvent, je renvoie pas du tout la réalité. Est-ce que ça vient de là aussi?
Oui, c'est vrai que l'hypersensibilité, etc., ça peut être perçu comme de la faiblesse par d'autres personnes. Donc, comme je suis dans un métier depuis très longtemps et que ça a été un métier extrêmement masculin, ça l'est un petit peu moins, mais ça l'est quand même toujours. Pour être prise au sérieux, être prise à égal de l'homme, finalement, il a vraiment fallu que je masque beaucoup de mes émotions puisque c'était considéré comme quelque chose de négatif et féminin. Déjà, je devais pas me comprendre moi-même et en plus, j'étais consciente que je devais masquer beaucoup, beaucoup de choses de ma personnalité pour pouvoir évoluer dans mon travail. Et comme en plus, on faisait beaucoup ce rapport de sensibilité, etc., égale féminité, bah ça voulait dire pour moi qu'il fallait que je cache tout ce qui était lié à ma féminité.
Comment est-ce que tu as démarré dans ce métier, la restauration ?
J'ai fait des études dans la mode parce que c'était un objectif de très très longue date et à la sortie de mes études, j'ai eu une expérience dans la presse qui n'a pas été concluante, donc j'ai cherché du travail dans mon métier et en attendant, pour pas rester inactive, j'ai trouvé un petit job de serveuse dans un restaurant. On m'a très rapidement donné des responsabilités, donc je me suis dit que c'était une très bonne expérience de toute façon, de manière globale, de pouvoir apprendre à manager une équipe, surtout aussi jeune. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis, à New York, pendant 1 an, suite à une rupture amoureuse. Et c'est vraiment là-bas, donc là-bas, j'ai travaillé dans des restaurants aussi différents pour pouvoir rester là-bas. Et c'est vraiment là que je me suis trouvée, j'ai vraiment trouvé ma voie dans ce métier-là, principalement sur la relation avec les gens. accueillir les gens dans un moment qui est censé être soit un moment de détente, de bien-être, etc. Et en fait, de faire en sorte que je m'occupe de ces gens pendant ce moment-là, je pense que c'est ce qui a fait que je me suis trouvée là-dedans.
Il y a un peu ce stigma social. On se dit, ah ouais, d'accord, il est serveur, il est serveuse, ouais. Comme si c'était pas un vrai métier.
Oui, oui, oui.
Comme si il y avait pas de compétences, comme s'il y avait pas de bons, de mauvais serveurs, comme si ça pouvait pas être une passion aussi.
C'est pas ton métier. Moi, on me disait souvent, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, c'était très drôle parce que, alors moi, ça m'amusait beaucoup parce que par contre, j'avais aucun problème à assumer le fait que j'étais serveuse, hein. J'ai jamais dit, même à ce moment-là, ah oui, bah, c'est en attendant d'eux. Et je dis oui, je suis serveuse. Pour moi, c'est les gens ne savent pas ce que c'est comme métier et que tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi, je suis bien placée pour savoir que tout le monde n'est pas capable de faire ce métier et qu'il faut avoir des compétences pour le faire. Il faut avoir des compétences d'organisation, de physique. Au même titre que ça m'agace quand on me dit ah, moi, j'ai toujours adoré cuisiner, j'ai envie d'ouvrir mon restaurant. Ça me met très en colère.
Parce que c'est pas facile.
Parce que c'est pas facile. Et que c'est un vrai métier. Et que tout le monde ne réussit pas dans la restauration.
Dans ta voix, on sent beaucoup de détermination.
Enfin, ah oui.
Ouais.
Bah, tu vois, c'est la différence entre. Ouais. Mais vraiment.
Peut-être. Non, mais enfin, même dans le. Ça s'illustre aussi par ton parcours où, voilà, tu te dis que la mode, c'est fait pour toi. Assez rapidement, tu dis stop. Mm-hmm. Il y a des personnes peut-être qui seraient restées plus longtemps dans cet inconfort. D'où te vient, selon toi, cette détermination que moi, je suppose, tu me diras si elle est vraie ou pas, hein, mais d'où te vient cette détermination qu'on ressent et qu'on voit dans ton parcours et le fait aussi que tu crois en toi-même à cette époque, que tu te lances sans te poser forcément plus de questions parce que t'aimes ça.
Déjà, c'est marrant parce que là, ça fait plusieurs fois en très peu de temps qu'on me le dit. Et alors que moi, je percevais pas. Je sais que mes parents m'ont toujours dit que j'étais extrêmement déterminée, puisque quand je leur disais quelque chose, c'est que j'étais déjà en fait en train de commencer à le faire. Et je l'ai encore dit hier, tu vois, où j'ai vendu un de mes biens, les murs du Café Crème que j'ai eu pendant très longtemps, et la notaire à la fin me dit bon bah Cathy, c'est une page qui se tourne. J'ai regardé, j'ai dit oui. Enfin moi, je l'ai tourné le jour où j'ai décidé de le vendre en fait. J'avance. J'ai une soif d'aventure, ça c'est sûr, parce que j'ai envie de me lever le matin et me dire que je vais pas m'ennuyer et que je vais vivre des choses. Sur l'entrepreneuriat, d'une manière globale, je dis toujours, c'est que il faut pas avoir peur de prendre des risques et ça peut amener des grands bonheurs comme de grandes difficultés, comme des malheurs, etc. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu shootée à ça maintenant, mais j'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai envie de vivre des grandes choses en tous les cas.
Comment tu te sens dans ta peau quand tu commences dans la restauration après cette mauvaise expérience dans le bureau de presse?
J'étais resplendissante, c'est ce qu'on a pu me dire en tous les cas. Je sais qu'on a pu me dire que j'étais solaire à ce moment-là, donc... et pour moi, être solaire, c'est pas seulement sourire. C'est un bien-être global, quoi. Mes émotions se voient, en tous les cas. Et les moments où je peux grossir ou maigrir, clairement, c'est lié à ce qui est en train de se passer dans ma vie, ça, c'est sûr. La peau, c'est pareil. Ma meilleure amie sait, quand elle me voit, si je suis triste ou pas, par exemple. Elle me dit, c'est tellement écrit sur ton visage que tu peux avoir l'air de donner le change, les gens qui te connaissent le savent. Moi, je sais que le stress, ça m'apporte des boutons. Je pense que c'est totalement lié au même titre que je dis toujours quand je sens que j'ai une bonne idée, par exemple. Enfin, ça arrive dans tout un tas de moments, mais quand je sens que j'ai une bonne idée, par exemple, j'ai des frissons. La peau reflète l'émotion que tu es en train de ressentir pour moi, que ce soit sur, comme je disais, des boutons, etc., mais sur des effets. Par exemple, moi, je sais que quand je suis très fatiguée, j'ai la peau beaucoup plus sèche.
Donc, t'étais bien, quoi.
Ouais. J'étais super bien même.
Tu débutes dans la restauration à 21 ans, en 95. Est-ce que tu peux me décrire le monde de la restauration de cette époque, et notamment le traitement réservé aux femmes, s'il y en avait un? En quoi ça a impacté ta façon de te comporter, ta confiance, ton envie d'y arriver? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce milieu?
Le milieu de la restauration, dans les années 90, c'est principalement masculin. En tous les cas, la chaîne de restaurants dans laquelle j'étais était au niveau des responsables 100% masculine. On me donne les responsabilités suite à une réunion que j'avais demandé parce que des serveuses n'étaient pas contentes, etc., etc. Et en fait, au moment où je déroule les problèmes rencontrés par les équipes, je propose des solutions. Et c'est pour ça que les deux fondateurs de cette chaîne me proposent assez rapidement un poste de responsable. Et c'est vrai que je me retrouve assistante manager à ce moment-là. Et je me rends compte très très vite que il va falloir que je fasse deux fois plus pour montrer que c'est pas parce que je suis une jeune femme que je peux pas faire aussi bien qu'un homme. Et surtout au départ, on est très très dur avec moi. Les deux fondateurs me disent que je suis nulle, etc. Dans la mode, quand on me disait ça, ça m'accablait. Là, j'ai juste envie de leur montrer que je suis aussi capable que n'importe qui d'y arriver. Donc je découvre à ce moment-là que je suis quelqu'un qui peut se battre aussi beaucoup. Je dis pas que tous les hommes qui m'entourent à ce moment-là ont été mauvais, pas du tout, parce que j'ai travaillé aussi, j'étais manager avec d'autres hommes et notamment il y en a qui m'ont vraiment soutenue et qui me disaient que j'étais tout à fait capable et qui aimaient bien travailler avec moi, etc. J'ai quand même travaillé deux fois plus. Mais c'est aussi ce qui a fait changer d'avis la personne qui me disait que j'étais nulle, puisque le jour où il m'a dit qu'il pensait que j'allais être patronne un jour, voilà, il me dit dès que je passe devant le restaurant, t'es là. Quoi qu'il arrive, matin, midi, soir. J'essayais aussi de porter des choses aussi lourdes que les hommes pour pas qu'on me dise quoi que ce soit. Je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je cache un peu ma part de féminité pour déjà que, en fait, de prime abord, on le gomme tout de suite.
Quand tu dis que tu gommais ta part de féminité, déjà, comment est-ce que tu définirais ta féminité à l'époque et la façon dont progressivement tu l'as fait disparaître, elle s'étiole, pour pas faire de vagues finalement et pour donner moins de grains à moudre à ses patrons et collègues qui pouvaient être sexistes avec toi?
Bah déjà, tu gommes la sensibilité, c'est-à-dire que t'encaisses et puis tu vas pleurer dans les toilettes. En fait, d'encaisser, vraiment pour moi, c'est je prends ça comme tu prends un coup de poing et tu bouges pas, vraiment. Des fois, c'est un coup de poing dans le ventre, hein, c'est dur, mais tu restes stoïque. C'est plutôt comme ça que je le définirais. Et c'est aussi pour ça que, avec les années, peut-être que mes émotions ressortaient avec beaucoup plus d'ampleur, parce que il y a un moment donné, ton corps peut pas encaisser plus, et du coup, ça ressort d'une autre manière. Je pense que c'est surtout lié à mes émotions que je gommais ma féminité. Je cachais pas ma féminité physiquement, mais je vais te donner des exemples. Je sais pas, sur le désir d'enfant, par exemple. Sur mes relations amoureuses, par exemple.
C'est-à-dire le désir d'enfant?
Ah bah, je cachais que j'étais foncièrement une femme qui a toujours voulu des enfants, clairement. Et même sur mes relations amoureuses. Hein, mes patrons de l'époque, pour eux, les relations amoureuses ne m'intéressaient pas. Avoir des enfants, ça ne m'intéressait pas. Et je n'ai jamais contredit ça, justement. Parce que je me disais, mais si je contredis ça, c'est leur montrer que je suis une vraie femme et que je veux des enfants. J'ai des désirs de maternité et peut-être que ça va... compromettre ce qu'il voit de moi, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui a autant d'ambition professionnelle qu'un homme.
Quel mécanisme t'as mis en place pour justement camoufler ces émotions? Qu'est-ce qui marchait pour toi?
Bah, ça marche pas au final parce que tu te sens pas bien. Au début, donc mes anciens patrons ont été mes associés dans mon premier resto. Je partais pas en vacances. Ou si je partais trois jours, je leur cachais. J'avais la hantise. Qui me disent, qui me prennent pour quelqu'un de pas sérieux et qu'ils auraient pas dû investir sur moi et parce que j'étais fatiguée et j'avais besoin de me reposer et que ça aussi je le cachais, quoi. C'est encaisser et cacher et pas être toi-même. Mais je pense que clairement j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas caché tout ça. Vraiment.
On t'aurait pas laissé faire?
Non. Non. Même, quand j'ai quand même annoncé à mon associé que j'étais enceinte, ça l'a beaucoup fait rire. La première chose qu'il m'a dit, c'est « Ah, mais du coup, t'as une vie sexuelle. »
Ah ouais, donc
t'étais
vraiment...
Et il m'a dit « Ça, c'est vraiment le plus drôle pour moi. » C'est qu'il a fallu que tu couches avec un homme pour avoir un enfant, quoi.
Ouais, donc t'étais comme une sorte de fantôme de toi, une sorte de réplique.
Ouais.
Mais sans les émotions.
Ouais. J'ai obligé de les cacher, en fait. Hein. Vraiment.
J'imagine que ça n'a pas dû t'aider à les comprendre.
Ah bah justement, en fait, c'est parce que mon corps a réagi très violemment physiquement que j'ai commencé à devoir creuser ça. Et j'ai eu une crise de tétanie qui a duré 2h30 un jour. C'est-à-dire que j'ai eu une telle montée d'émotions que je sentais que j'allais faire une espèce de crise d'angoisse. Je manque d'air, tu vois, je manque d'air. Donc c'est clairement... je vais plus respirer, quoi, parce que là, l'émotion que je ressens, elle est trop forte, trop de pression. Et comme j'ai voulu contenir ça, eh ben, mon corps est tombé raide. Mais quand je dis raide, c'est que mon corps a fait une crise de tétanie, donc c'est raidi complètement. Et je suis tombée. Et je suis tombée dans la cave de mon restaurant, tu vois, d'ailleurs. Et ça a duré 2h30. Donc, c'était, je pense, une manière pour mon corps de dire c'est trop, trop. Là, tu encaisses trop, tu vois. C'était il y a 7 ans.
Comment est-ce que tu comparerais le monde de la restauration quand tu as commencé à celui d'aujourd'hui, notamment pour les femmes?
Je me rappelle qu'une fois, j'ai été invitée à une soirée où on invitait tous les patrons de bistrot parisiens et j'étais la seule femme. Du coup, c'est là où tu te dis « Ok, donc il n'y en a pas beaucoup ». C'est à ce moment-là où je me suis vraiment rendu compte du déséquilibre. Aujourd'hui, j'en connais plein des femmes, j'en vois plein, même si je ne connais pas personnellement qui ouvrent des restaurants. Du coup, sur les financements, tout ça, tu vois, moi, quand j'ai commencé, un banquier m'avait dit qu'il ne voulait pas me financer parce que j'étais une femme, que j'allais vouloir avoir des enfants. Enfin, c'est aussi, je pense, que l'addition de tous ces gens qui font que tu caches aussi ton désir d'enfant. Là-dessus... clairement, en plus de 20 ans, ça a évolué. Maintenant, j'en connais des femmes, j'en vois, qui ouvrent des restaurants. C'est plus du tout comme avant, tu vois.
Oui,
c'est plus. Mais quand même, on te parle des enfants, hein, quand même.
On connaît un peu les aléas de la vie dans la restauration hein, maintenant, hein, les horaires à rallonge, chaud au froid, l'alcool, parfois la drogue, etc. Comment est-ce que toi, tu prends soin de toi pendant cette période de déni émotionnel, finalement? Comment est-ce que tu fais attention à toi et qu'est-ce que tu mets en place pour essayer d'aller bien?
Bon, déjà, je bois pas, je prends pas de drogue, tout ça. La restauration, c'est un métier physiquement qui est exténuant. Je me suis toujours dit que c'était le sommeil, un maximum, le sport et la nourriture qui vont m'aider à tenir. Il y a eu quand même plein de moments où je me dis, bon, j'avais l'impression de prendre soin de moi, mais je le faisais pas, tu vois, sur le nombre d'heures de travail et de pas savoir des fois me reposer ou prendre un temps pour moi, en tous les cas, pour tenir de la meilleure manière. Je crois qu'à ce moment-là, c'est encore compliqué pour moi de maîtriser ce que veut dire prendre soin de moi. De dire faut que je fasse, faut que je sois là, faut que je travaille pour toujours montrer tu vois ce que je suis capable de faire.
À quoi ressemblait ton rythme de travail pendant ces périodes?
Mon rythme de travail avant mes enfants, ça pouvait être 10h du matin, 2-3h du matin. Ma première grossesse c'était ça aussi. Puisque je continuais à travailler le soir, je crois, jusqu'à mon 7e mois ou 8e mois. Parce que je me suis arrêtée, clairement, quand je sentais que j'allais accoucher. Après, à la naissance de mon premier enfant, je continuais à travailler le soir. Bon, là, c'était le plus dur parce que du coup, la première année, j'essayais de garder le même rythme. Mais du coup, avec mon bébé qui faisait pas ses nids, c'était hyper dur. Je dormais 4 heures, je donnais un biberon, j'allais travailler, je dormais une demi-heure par terre dans mon bureau et tout ça. Et je pense que ça, c'est aussi, c'était pour dire à mes associés, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que j'ai un enfant que je vais travailler moins. Hein. Et par contre, tu vois, ce qui était hyper dur, c'était de donner le biberon à mon fils le soir et de retourner travailler. Ça, c'était, j'y allais avec une boule dans la gorge. J'ai fini par arrêter de travailler le soir au bout d'un an de mon fils.
T'habites à Paris, t'as 2 enfants, donc et t'es chef d'entreprise, donc dans tous les cas, t'as une vie qui est très chargée, t'as un business qui marche bien. Est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu prends le temps de t'écouter et de te mettre sur pause?
J'ai beaucoup de mal à arrêter mon cerveau sur le travail, parce que finalement, c'est d'abord une passion hein, avant d'être mon travail, donc... Moi, quand je réfléchis, tu vois, des idées, mon menu et tout ça, j'ai pas l'impression de travailler. Hein. Donc, en fait, les moments pour moi, c'est si je voyage et que je suis en voyage d'inspiration pour le resto et tout ça. Moi, je sais pas. m'arrêter et rien faire. Je peux, tu vois, bouquiner un petit peu, c'est du temps pour moi, donc c'est super. Mais je crois que ce qui me plaît le plus, c'est de voyager. Quand je voyage, vraiment, je me sens hyper bien parce que c'est une parenthèse. Ça me sort de mon quotidien et ça, par contre, c'est vraiment, j'ai la sensation de prendre du temps pour moi, même si je voyage pour le travail. Hein. Prendre du temps pour moi, c'est me couper du quotidien. Et tu vois, par exemple, hier, pas plus tard qu'hier, j'étais extrêmement fatiguée, j'avais mal au dos et tout ça. J'étais avec mes enfants, il était assez tôt et je me suis dit, j'aurais tellement besoin de me faire masser. Et eux, ils étaient en train de jouer à leur console de jeu. Et moi, j'étais là. Et je me suis dit, mais attends, bah, je vais y aller parce qu'il n'y a pas de raison que je reste avec eux pendant qu'eux, ils sont en train de jouer à la console. Et donc, je leur ai dit, ça ne vous dérange pas si je vais me faire masser? Ils m'ont dit, bah non, je suis allée me faire masser. Et je suis revenue. Et ils m'ont dit, c'était bien ton massage? Oui, c'était bien. Et là, je me suis dit, bah, tu vois, avant, je l'aurais jamais fait. Je me serais dit, ah bah non, mais attends, je ne peux pas aller me faire masser alors que je suis avec mes enfants, la culpabilité et tout ça. Et comme ça, je suis revenue beaucoup plus détendue et on a dîné, on a discuté tous les trois et c'était super. Et tu vois, et spontanément, mon petit, il vient me faire plus de câlins quand je suis comme ça. Donc oui, je pense que j'en prends du temps pour moi. Peut-être pas comme tout le monde peut l'entendre, mais j'en prends.
J'aurais aimé savoir comment tu prends soin de ta peau aujourd'hui.
Alors, je prends soin, j'ai une peau qui est très sensible. J'utilise pas beaucoup de produits, je reste très 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 simple sur ma manière de m'entretenir et surtout j'avais rencontré une dermatologue à une époque où j'étais très stressée, où j'avais eu des boutons sur le visage, une espèce d'acné où des dermatos m'avaient donné et des crèmes à la cortisone et 10 000 crèmes qui faisaient rien. Au contraire, j'ai l'impression que ça faisait exploser le truc. Et une dermato d'hôpital m'avait dit « Stop, 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 vous arrêtez tout. Vous nettoyez votre peau avec un savon. Pendant un mois, je ne veux plus de crème le soir avant d'aller vous coucher. Et le matin, c'est juste spray d'eau minérale et une crème hydratante. Point. » Au début, c'était assez inconfortable le soir parce que j'avais la peau qui me tiraillait, etc. Et en fait, elle a eu raison. Mes boutons sont partis sans aucun traitement. Nettoyage de peau hyper important. Et en fait, ça m'a appris à surtout comprendre que le nettoyage de peau était hyper important. C'est principalement ça. Je me suis pas maquillée avant mes 40 ans. J'avais jamais rien mis sur ma peau avant mes 40 ans. J'aime pas le maquillage et je me dis que c'est peut-être aussi donc ça avait rien à, c'était pas du tout pour prendre soin de ma peau hein, c'est que je n'aime pas ça. Donc je pense que ça en a pris soin aussi, tu vois, de pas mettre beaucoup de produits sur ma peau. Mettre de la crème, c'est une sensation de bien-être et l'odeur est hyper importante. Je peux mettre de genre une crème pour les mains avec une odeur particulière que j'apprécie, ça va être une sensation de bien-être. Et tu vois, sur la gestion des émotions, on t'explique que si t'es dans un moment avec une émotion où t'es pas bien, etc., il faut faire quelque chose de sensoriel pour t'apporter du bien-être. Donc, par exemple, c'est te prendre un bain et te mettre de la crème avec une odeur qui va t'apporter un sentiment de bien-être, boire un thé, par exemple, chaud, etc. Et ça peut calmer une émotion. Donc, tu vois, moi, il y a des moments où, pour m'endormir, je vais mettre une crème sur mes mains parce que l'odeur va m'apporter du bien-être. Donc, ça va m'aider à bien m'endormir.
C'est très vrai ce que tu dis sur le... Pour calmer une émotion ou pour reprendre un peu le contrôle, de faire quelque chose de sensoriel. Hier, j'ai eu un moment où j'étais un peu submergée par mes émotions et j'avais mon cours de céramique. Et je me suis dit, presque j'avais pas envie d'y aller parce que, tu sais, j'étais dans un truc d'énervement, j'étais pas bien. Et finalement, j'ai fait mon cours de céramique et au bout d'une demi-heure à tourner mes trucs et mes bols, je suis passée d'un mood exécrable à... j'avais une super pêche, je me sentais trop bien, j'ai discuté avec tout le monde, et tu vois, j'étais vraiment ouverte. Enfin, alors que si j'avais pas fait ce cours-là, je me serais entraînée toute seule dans mon truc, un peu la spirale. Et là, ça a converti mon émotion en quelque chose de très positif. C'était cool.
C'est ce qui nous explique, c'est agir. Agir, ça peut être aller te faire un thé...
sortir de sa tête. J'aurais bien aimé qu'on commence à parler de la sur-efficience et de la façon et du moment où tu comprends que tu es différente, que tu ressens le monde différemment et que tes émotions ne s'expriment pas de la même façon que les autres.
J'ai compris la différence de ressenti de mes émotions par un médecin. C'était il y a un peu plus de 3 ans. Il me posait des questions sur ma manière d'avoir... gérer telle situation, etc., etc. C'est avec lui que j'ai compris la sur-efficience. Et surtout, j'avais découvert un bouquin totalement par hasard qui m'a bouleversée. Et quand j'avais lu, je sais plus comment dire, La Quatrième de Couve, j'ai l'impression qu'on me décrivait, et du coup, je l'ai acheté et je l'ai absorbé au départ. Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et tu vois, quand là, je t'en parle, là, tout de suite, maintenant, j'ai envie de pleurer. parce que ça me décrivait. Donc, le livre, c'est « Je pense trop », avec dessous « Comment canaliser ce mental envahissant ». Ce qui était déjà très significatif pour moi. Et l'autrice, c'est Christelle Petit Colin. Dans ce bouquin, il y a oui, pourquoi les autres ne perçoivent pas ce qui est évident pour moi. C'est la sensibilité, l'émotivité, l'affectivité. Dans ce bouquin, elles expliquent qu'on est des personnes qui sont des véritables bouteilles de nitroglycérine. Tu vois qu'on est on est prêt à exploser quoi. Tout est trop. Trop de pensées, trop de questions, trop d'émotions. On vit les événements avec une intensité qui est hors norme. Il y a, dans ma tête, ça ne s'arrête jamais. Parfois, je voudrais débrancher mon esprit et ne plus penser à rien. Ben ça, moi, je me disais, tout le monde est comme ça. Mais en fait, j'ai compris que non. Pour la petite histoire, ma meilleure amie a lu ce bouquin 2 fois pour me comprendre. Elle m'a dit, Cathy, au fur et à mesure du bouquin, elle me dit, tu dois être épuisée. Parce qu'elle me dit, je réalisais pas. Et je lui dis encore, je ne te dis pas jusqu'où va mon cerveau des fois. Parce que je sais que ça peut faire peur. Mais donc, c'était resté au stade de bouquin. Et donc, j'en ai parlé avec ce psychiatre. Parce que du coup, je me sentais quand même plus à l'aise d'en parler, de lui en parler à lui. Et qu'il a confirmé ça clairement. Il m'a dit tout de suite, mais évidemment, pour moi, vous êtes sur-efficiente. Et c'est là où il m'a proposé de faire ce travail en gros avec un groupe sur le travail de ses émotions, la gestion des émotions, et etc. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé ce travail, le premier rendez-vous où on m'a dit « qu'est-ce que vous changeriez si vous aviez une baguette magique ?» j'ai dit « cette partie-là de ma personnalité ». Et donc, on m'a dit justement « non, on va vous aider, ça change pas déjà, et puis on va vous aider à l'accepter parce que c'est incroyable d'avoir ce trait-là de personnalité et que c'est un avantage incroyable ». Donc, c'est vrai que je l'ai beaucoup rejeté. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est beaucoup de souffrance permanente. La psychiatre que j'avais en face de moi me disait « Non mais vous ressentez les émotions avec une intensité qui est à 80% sur une personne qui va ressentir la même émotion qui n'est pas comme vous, qui va la ressentir à 10%. » Et quand j'ai commencé ce travail, c'était incroyable. Déjà, la première séance en groupe, on nous explique que c'est biologique. Je comprends pourquoi on me dit que je ne vais pas pouvoir le changer. Et deux, c'est « Ok, j'y suis pour rien. Tu n'as pas le choix que d'accepter ce que tu es. » Je me suis dit tout de suite, ma grande, va falloir te comprendre et s'adapter à ce que tu es. Il n'y a pas le choix. On a un système sensoriel et émotionnel qui est hypersensible. Donc en fait, c'est une finesse, c'est une perception neurologique qui a une perception différente. Donc c'est pour ça que je pense que moi, j'ai des réactions physiques sur des émotions et sur des ressentis. Et en fait, maintenant, j'en connais beaucoup et ça peut me permettre de prendre une décision. Voilà, si j'ai un frisson qui est particulier...
C'est un message, quoi.
Ouais. C'est ton corps qui te dit, vas-y, n'y va pas. Ça, c'est une émotion positive, ça, c'est une émotion négative. C'est comme quand t'as une réaction de peur, t'as une réaction physique. Enfin, voilà, c'est vraiment... c'est lié à nos émotions. Quand j'ai fait le travail sur les émotions, justement, ils te demandent d'essayer, mais ça prend du temps. de reconnaître quelles, comment dire, conséquences physiques tu as eues au moment où tu as eu cette émotion. Il faut essayer de réfléchir en amont. Ok, alors j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, soit un frisson, j'ai eu, je sais pas, une boule au niveau de l'estomac, j'ai eu, tout d'un coup, je me suis sentie rougir. Enfin voilà, c'est toutes les émotions ont une conséquence physique.
Qu'est-ce que ça change dans la façon dont tu te sens dans ta peau quand justement tu poses ce diagnostic, qu'il est confirmé et que tu réalises qu'en réalité, c'est une réalité biologique, que tu es comme ça? Alors au début, t'as pas envie, tu es un peu dans le déni, dans le rejet. Ensuite, tu finis par l'accepter, par comprendre, par travailler dessus, par te former aussi à cette condition. Mais comment tu te sens dans ta peau après?
C'est sur la longueur, mais c'est vraiment du travail. Au départ, je sens pas le changement. Et en fait, c'est des petites choses de mon quotidien. Je me dis, tiens, c'est fou, j'ai réagi différemment là. Ah bah finalement, ça fonctionne, le travail qu'on fait. Et je pense que tout ce travail-là, comme je disais, m'a redonné ou m'a donné confiance en moi. Donc, m'a permis de réagir différemment, de aussi être moins atteinte par certaines choses, puisqu'on t'apprend aussi à traiter un événement, à vérifier les faits, à pas interpréter, à pas juger. Des fois, c'est des séances où tu racontes quelque chose, tu dis ce que t'en as pensé et elle te tape sur un gong dès que tu interprètes ou dès que tu juges. Et c'est là que tu rentres compte, tu dis « Ah ouais, ça aussi, c'est une interprétation ». Parce que ton interprétation devient ta réalité. Et c'est ce qu'elles essayent de déconstruire. Pour moi, il y a un avant et un après. Je pense que ça m'a apporté du bien-être, bah, m'accepter et être un plus indulgente. Ouais.
Tu pars d'un point A où tu te comprends peu, voire pas, et moins bien que les autres, à une sorte de maîtrise hyper poussée de ton corps, tes émotions et la façon dont ton cerveau a envie de communiquer avec toi, pour finalement mieux te comprendre et mieux prendre les décisions par rapport à des personnes qui ne sont pas suréfficientes et ne sont pas n'ont pas cette dérégulation émotionnelle. C'est fou.
Ça m'a permis de faire tout ce travail finalement, de me comprendre, de m'accepter et du coup d'avoir un peu plus confiance, d'assumer aussi. Parce que maintenant j'assume et j'assume aussi, je pense, pour toutes les personnes qui pourraient me ressembler, parce qu'on est quand même beaucoup, hein, je crois qu'il y a 30% de personnes hypersensibles, donc c'est énorme, pour montrer que on peut être hypersensible, émotif, etc., mais on peut réussir à être entrepreneur. La vulnérabilité n'est pas quelque chose de négatif, etc. Tu vois, ça, j'ai vraiment envie de le porter. S'il y a quelqu'un qui prend la parole et qui me dit quelque chose de hyper positif et qui me touche, je pleure. Et je leur dis, en fait. Parce que pour moi, c'est un moment un peu privilégié. Même si je suis avec 20 personnes, on n'est pas filmé ni quoi que ce soit. Donc, peu importe hein, si je me mets à pleurer. Et je leur dis tout de suite, je vous dis tout de suite, je suis émotive, je vais pas le cacher. Et je sais qu'à la fin, ce qui est drôle, c'est que les gens viennent me voir en me disant, c'est génial, enfin, tu pleures, quoi. Genre, oui. Bah non, mais tu montres que, en fait, tu peux pleurer, tu peux être sensible, tu peux être dans un moment de vulnérabilité, mais ça t'a pas empêché de réussir. J'ai dit, bah, heureusement, effectivement, mais je l'ai beaucoup caché.
Est-ce que ça permet aux personnes qui te côtoient et qui connaissent maintenant ce trait de ta personnalité et la façon dont tu vis tes émotions, d'être aussi, eux, plus vrais, de se montrer parfois plus vulnérables?
Alors, ça a fait un tri naturel autour de moi. J'ai essayé de l'expliquer à des personnes pensant que c'était des amis. Mais j'ai eu des réponses. Oui, non, ça va. Enfin, tout le monde a des émotions, enfin. Tu vois, et là, tu dis, OK, donc là, tu n'as pas compris ce que j'essaie de t'expliquer. C'est que, évidemment que tout le monde a des émotions. Évidemment. Je suis juste en train d'expliquer que je la ressens beaucoup plus fortement que toi. Et que des fois, ça peut être extrêmement difficile. Et surtout, je me suis dit, au fait, maintenant, maintenant que je m'accepte, il faut que les gens qui sont autour de moi m'acceptent. S'ils m'acceptent pas, ben, tant pis. Parce qu'avant, je disais rien, je voulais que les gens m'apprécient. Donc, je disais jamais non. Enfin, tu vois.
Tu es maman de deux garçons, comment est-ce que tu te sens et comment tu t'es sentie dans ta peau de mère?
J'ai toujours désiré des enfants. Première grossesse, c'était super, c'était la découverte, tout ça. Ce qui est moins super, c'est la modification du corps, la peau. Enfin, tu changes de corps. Hein. Moi, j'en ai marre d'entendre les gens qui disent aux femmes qui ont accouché, oui, mais bon, t'as un beau bébé et tout ça. Oui, bon, bah, c'est pas facile de changer de corps quand même. C'est quand même compliqué, je trouve. Hein, tu vois. Après, j'adore mes enfants. D'ailleurs, si on parle de peau, tu vois, j'ai encore la sensation du peau à peau quand on m'a posé mon bébé, le premier, sur le ventre. Je peux ressentir, tu vois, là, je peux ressentir encore la sensation de la peau.
C'était quoi comme sensation ?
J'en ai des frissons. C'est animal, hein. C'est animal. J'ai une amie qui a accouché il y a pas si longtemps. Elle m'a dit, c'est vrai ce que tu disais, c'est animal. C'est, je sais pas, la sensation de la peau, l'odeur de la peau. Ton bébé, hein, ton bébé, tu s'arrête de pleurer quand on te le pose dessus. Enfin, tu vois, quand il te sent. Tu sais, les bébés, ces petits animaux là, des fois, ils sont dans les bras de quelqu'un d'autre à côté de toi. Tu sens qu'ils cherchent ton odeur. Si on te les pose peau à peau et que ça devient quelque chose de très important, c'est que c'est primordial. Mais moi, je trouve que c'est fabuleux, ce moment là. Il est incroyable et le toucher, en fait, c'est marrant parce que tu vois, hier soir, j'étais avec mes enfants et je sentais que j'avais besoin de les toucher. C'est un contact qui est inexplicable.
Et émotionnellement, qu'est-ce que ça a changé chez toi de devenir maman ?
Ah bah, c'est décuple les émotions. Hein. La peur existe. La culpabilité aussi. Quand on est maman et qu'on a un travail, et alors que ce soit chef d'entreprise ou pas chef d'entreprise, je pense qu'on est en permanence dans la culpabilité. On est soit, on se sent coupable de pas donner assez de temps à ses enfants, soit de pas assez travailler. C'est confirmé aussi par tous les échanges que j'ai eus avec soit des jeunes femmes qui veulent avoir des enfants, soit qui en ont, qui sont enceintes, etc. Comme émotion, c'est un immense bonheur aussi hein, de les porter et de les mettre au monde. C'est un moment qui est incroyable. Donc je sais pas, moi je me suis sentie complète.
Comment est-ce que tu gères tes émotions avec tes enfants ? Est-ce qu'ils ressentent ta sensibilité ? Et qu'est-ce que tu essayes de leur transmettre ? Puisque là, tu es dans une phase d'apprentissage de tes émotions, les reconnaître, se reconnecter à elles, les exprimer. Qu'est-ce que tu leur transmets à eux pour qu'ils puissent aussi mieux décrypter leurs émotions et mieux se ressentir ?
Ils sont encore jeunes, ils ont 8 et 12. J'essaye de ne pas leur montrer toutes mes émotions, notamment j'essaie de ne pas pleurer devant eux parce que c'est quelque chose qui va les inquiéter immédiatement, donc ça j'ai pas envie. Quand je suis énervée ou en colère, je leur dis, pour qu'ils comprennent aussi que je risque de moins avoir de patience avec eux. Voilà. Ce que ça m'a plus apporté, c'est d'appréhender leurs émotions pour l'instant. C'est-à-dire, on n'est pas toujours en mesure de le faire, attention, mais... tu vois, quand soit il s'énerve, soit il pleure, si tu commences ta phrase par dire « je comprends », ça calme la moitié de l'émotion. J'essaye des fois avec mes enfants de faire ça, c'est-à-dire « ok, je comprends que tu pleures parce que là, la situation t'a peut-être énervé, etc. » Et ensuite, je vais sur le fond du problème. Hein. Ça permet de calmer son émotion tout de suite et du coup, il est plus enclin à écouter ce que je vais dire. Ou mon fils qui va dire le matin « Maman, j'ai hyper mal au ventre et je sens que c'est parce que juste il veut pas aller à l'école. » Mais du coup, j'essaye de comprendre pourquoi, parce qu'il y a peut-être un pourquoi. C'est « Alors, je comprends que tu aies mal au ventre. Je comprends que du coup, tu n'aies pas envie d'aller à l'école parce que tu as mal au ventre. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi tu as mal au ventre. Peut-être que tu as peur. » Je lui dis « Peut-être, je ne sais pas, tu as un contrôle aujourd'hui ?» oui, j'ai un contrôle. Ah, bon, bah, c'est peut-être parce que, comme tu as peur de pas avoir assez révisé, tu ressens de la peur et du coup, tu as mal au ventre. Donc, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si tu as pas une excellente note, c'est pas grave, etc., etc. Et du coup, il va à l'école. Et attention, hein, ça, c'est dans le meilleur des cas. Hein. Des fois, il pleure, il s'énerve et je m'énerve. On m'a expliqué pendant ce travail que, une émotion, si tu as une première fois une émotion et que la personne en face de toi fait « Oh, mais pourquoi tu pleures ?» bah la fois d'après elle va prendre beaucoup plus d'ampleur. C'est comme un enfant, tu vois, un enfant qui tombe, qui pleure et tu dis oui, bon, relève-toi. Bah la fois d'après, quand il va pleurer beaucoup plus fort pour que tu aies une interaction avec et que tu t'en occupes. Bah une émotion c'est pareil. En fait, si à chaque fois la personne face à toi ne la prend pas en compte, et bah elle va être beaucoup plus grosse à chaque fois. Donc, si tu commences par dire OK, je comprends, et tu parles, et ben ça atténue l'émotion directement.
Je me posais la question de est-ce que tu aurais pas aussi apprécié le monde de la restauration très vite parce que il y avait un rythme infernal et que ça te permettait d'une manière ou d'une autre de mettre un tout petit peu sur pause le courant de tes pensées et le fait que t'étais rapidement submergé par tes émotions.
On m'a expliqué aussi ça, notamment par rapport au confinement, c'est que l'hyperactivité chez les suréfficients, c'est souvent pour canaliser les émotions. C'est-à-dire que c'est un système de défense, c'est un peu comme un couvercle de cocotte minute en fait. Plus t'es actif, plus tu gardes ton couvercle sur tes émotions. Et bah du coup, quand tu arrêtes d'être aussi actif, les émotions se déploient. Donc imagine-toi, pendant le confinement, c'était le premier confinement, explosion des émotions. Et d'ailleurs, j'ai fait une rosacée, j'étais couverte de boutons. Enfin, tout est ressorti pour moi physiquement et sur la peau, tu vois. Donc, et quand j'ai repris mon activité, ben c'est parti. Donc oui, c'est sûr.
Une dernière question, et c'est la question que je pose à chacune des invités de ce podcast. C'est aujourd'hui, comment tu te sens dans ta peau?
Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, ce qui est très drôle parce que je vieillis. Je pourrais être à un moment justement où bah, je me sens moins bien. Et je pense que c'est un moment de ma vie où je me sens le mieux. C'est-à-dire que je m'accepte mieux aussi physiquement. Comme j'avais pas du tout confiance en moi, même physiquement aussi, je suis beaucoup plus indulgente, tu vois. Je me sens très bien. Il y a pas longtemps, il y avait un article dans un magazine féminin qui disait que après 40 ans, t'avais plus le droit de mettre de jupe courte si ça dépassait au-dessus du genou, que t'avais pas le droit de t'habiller en jogging et tout un tas de choses. J'en parle encore parce que j'étais tellement en colère de cet article, vraiment vraiment, parce que je me suis dit moi j'ai dépassé ce stade, donc voilà, mais je me dis je comprends pourquoi les femmes ont peur d'arriver aux 40 ans, parce qu'en gros ce genre d'article te dit à 40 ans c'est fini, t'es fini, ok, t'as plus le droit de rien faire quand t'es une femme, et ça me met en colère parce que c'est pas vrai. J'ai envie de dire justement aux femmes, mais pas du tout en fait. Peut-être 40 ans, c'est l'âge où tu t'acceptes le plus. Je me sens bien, évidemment je prends soin de moi, mais je prends soin de moi pour moi. Quand je me regarde dans le miroir, si j'ai envie de faire telle ou telle chose, c'est principalement pour moi et tant pis pour les autres. Mais je crois que en fait, je réussis en m'acceptant à trouver mon équilibre.
Je suis Lauriane Meulière et vous venez d'entendre Cathy Closier dans Émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à Émotion de peau, nous laisser des commentaires et nous mettre des étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. J'ai hâte de vous retrouver.